VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné hier soir, quelques heures après avoir été défié par l'armée.
Au Mali, un médecin militaire français a été tué hier par un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé.
En Sierra Leone, plus d'un milliard de dollars de fonds publics ont été détournés ou dilapidés en 3 ans sous le régime de l'ancien président Ernest Bai Koroma.
Aux Comores, la Cour suprême a validé hier la réélection du président sortant Azali Assoumani dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars.
Ici aux États-Unis, on craint un long affrontement entre la Maison-Blanche et les parlementaires démocrates engagés dans une série d'enquêtes contre le président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a notifié au Conseil constitutionnel qu'il quitte ses fonctions. Un développement majeur qui intervient juste après que l'armée a réitéré sa demande que le président quitte le pouvoir immédiatement. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Des centaines de personnes sont descendues dans les rues d'Alger pour célébrer le départ du président Bouteflika, déployant des drapeaux. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de président de la République. C'est le président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, Abdelaziz Ben Salah, qui doit assurer l'intérim selon la constitution algérienne. Juste avant l'annonce, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, avait de nouveau demandé que soit appliquée immédiatement la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le chef de l'État du pouvoir. L'armée algérienne considère non authentique le communiqué présidentiel annonçant le 1er avril la démission du président Bouteflika avant la fin de son mandat, considérant que la décision venait d'entités non constitutionnelles et non habilitées. En réaction, le département d'État américain a déclaré que le cadre de la future transition en Algérie doit être fixé par les Algériens eux-mêmes, une indication que la communauté internationale suit de près les événements en Algérie.
Au Mali, un médecin militaire français a été tué mardi à la suite du déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé. C'était lors d'une opération de lutte contre les groupes armés terroristes, ont annoncé la présidence française et l'état-major des armées. Le capitaine Marc Lecoeurs était en opération dans la région du Gourma, frontalière du Burkina Faso. L'armée française mène depuis 1 an et demi avec la force anti-djihadiste Barkhane une série d'opérations militaires dans le Liptako, dans le nord-est du Mali, et étend désormais son action de l'autre côté du fleuve Niger, dans la zone adjacente du Gourma.
Une vaste opération pour construire 1 million de citernes destinées au stockage de l'eau dans les régions arides du Sahel a été lancée par l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a indiqué mardi le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Selon lui, ce projet s'inspire d'une expérience menée au Brésil pour que des familles d'agriculteurs pauvres puissent stocker l'eau de pluie. Au cours des 3 prochaines années, le projet devrait bénéficier au total à 10 000 femmes au Sénégal, 5 000 au Niger et 5 000 au Burkina Faso, selon la FAO.
Plus d'un milliard de dollars de fonds publics ont été détournés ou dilapidés en 3 ans en Sierra Leone sous l'administration de l'ancien président Ernest Bai Koroma, qui a dirigé le pays de septembre 2007 à avril 2018. C'est ce que révèle un rapport d'audit présenté hier par le ministre Sierra Leone des Finances. Les précisions de John Linden.
Selon le ministre des Finances, Jacob Yuzu Safa, s'exprimant lors d'une conférence de presse très suivie, le rapport dévoile de graves violations dans l'attribution des marchés publics dans les secteurs de l'énergie, des routes, des pensions et des télécoms pour un montant de 1 036 milliards de dollars. Plus de 500 millions de dollars n'apparaissent également pas dans la comptabilité de contrats attribués par l'administration des routes, relève notamment l'étude portant sur la période 2015-2018 et réalisé par 50 experts issus de Sierra Leone, de Tanzanie, du Kenya et du Ghana. Une étude financée par l'agence de coopération britannique UKAID. Interrogées, plusieurs personnalités citées dans le rapport nient toute malversation, mais se refusent à tout commentaire. Dans un résumé assorti de recommandations, les experts dressent un long catalogue de contrats surévalués, de prêts ou de dons non justifiés, d'absence de stratégie pour recouvrer les loyers ou les amendes et de non-respect de la législation et des règles de comptabilité par les administrations et sociétés publiques auditées. Les contrevenants ont jusqu'à fin juin 2019 pour rembourser, sous peine de poursuite judiciaire. Les sommes détournées représentent 3 fois le budget des soins de santé et 5 fois celui de l'éducation, selon Aboubakar Camara, responsable d'une ONG locale.
Aux Comores, la Cour suprême a validé hier la réélection du président sortant, Azali Assoumani, dès le premier tour de la présidentielle disputé le 24 mars. Les 12 rivaux de M. Azali, qui est au pouvoir depuis 2016, refusent de reconnaître sa victoire et hurlent au hold-up électoral. M. Azali a notamment dissous la Cour constitutionnelle, remplacée par la Cour suprême, modifié la Constitution dans un sens qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2029 et ordonné l'arrestation de dizaines opposants.
Plusieurs dizaines de ressortissants du Malawi ont annoncé leur intention de quitter l'Afrique du Sud après une nouvelle vague meurtrière de violences xénophobes la semaine dernière dans le pays. 3 Sud-Africains avaient été tués lors d'une tentative de pillage d'un magasin de Durban tenu par un étranger. Les violences qui ont suivi ont contraint quelques 300 ressortissants malawites à quitter leur domicile. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a sévèrement condamné ces violences. Il n'y a aucune justification pour ces actes criminels, a-t-il estimé dans un communiqué.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, on craint un très long affrontement entre la Maison-Blanche et les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants. Ces derniers se sont lancés dans une série d'enquêtes sur le président Donald Trump. Le bras de fer porte sur l'accès aux documents à fournir et aux témoins à convoquer. Un vote de la commission judiciaire de la Chambre est attendu aujourd'hui pour forcer le ministre de la Justice, William Barr, à remettre dans son intégralité le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Et 5 anciens officiels de la Maison-Blanche, interrogés par M. Mueller, devraient être assignés à comparaître. La décision appartient à M. Barr, a dit le président américain, mais M. Trump pourrait bien recourir au principe du privilège de l'exécutif pour garder secrète certaines parties du rapport, ce qui fait craindre que l'affaire ne finisse devant la Cour suprême.
Le président Trump a mis en sourdine ses critiques à l'égard de l'OTAN, qui fête cette semaine ses 70 ans à Washington. M. Trump s'est même félicité de ce qu'il a appelé la montée en flèche des dépenses militaires des pays membres de l'Alliance Atlantique. Morgan Guiriac.
Des progrès formidables ont été réalisés et l'OTAN est beaucoup plus forte, a lancé le président des États-Unis devant la presse à la Maison-Blanche. Les gens payent et je suis très heureux, a-t-il ajouté en recevant le secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, au bureau ovale. Des déclarations qui tranchent avec le ton employé au cours des derniers mois. Donald Trump réclamait notamment un meilleur partage du fardeau pour que les pays européens contribuent davantage à la défense commune, au lieu, disait-il, de vivre au crochet des faramineuses dépenses militaires américaines. Donald Trump avait aussi mis en cause l'utilité de l'OTAN et le bien fondé de l'article 5 du traité prévoyant qu'en cas d'attaque contre un pays membre, tous les autres volent à son secours. Il insiste surtout pour que chaque gouvernement porte son effort militaire à 2% de son produit intérieur brut en 2024, au plus tard, conformément à une règle fixée il y a 5 ans. Première visée, l'Allemagne, qui est encore très loin du but avec 1,5% prévu en 2024.
Les habitants de Chicago ont élu mardi une femme noire et ouvertement homosexuelle à la tête de leur ville, une première dans cette cité marquée par les inégalités sociales et la violence due aux armes à feu. Lori Lightfoot, 56 ans, ancienne procureure fédérale, qui a notamment dirigé une commission de surveillance des activités de la police, l'a largement emportée face à Toni Preckwinkle, démocrate et africaine-américaine comme elle.
Venezuela, rien ne nous arrêtera, affirmé mardi l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays. Il réagissait à la décision de l'Assemblée constituante de lever son immunité parlementaire, permettant ainsi la poursuite d'une procédure judiciaire contre lui. La levée de l'immunité avait été adressée par la Cour suprême à la constituante lundi. Il est reproché à M. Guaido de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. La Cour suprême et l'Assemblée constituante sont, selon l'opposition, acquises au pouvoir du président socialiste Nicolas Maduro.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Cameroun n'atteindra pas ses objectifs de production de 600 000 tonnes de fèves de cacao fixés par le plan de relance des filières cacao-café adopté par le gouvernement en 2014. Selon les analystes, la production cacaoïère sera de 285 000 tonnes en 2020. Ce n'est qu'en 2021 qu'il atteindra la barre des 300 000 tonnes avant de croître progressivement de 15 000 tonnes par an jusqu'en 2023 où elle culminera à seulement 330 000 tonnes. L'année dernière, la cyberfraude a causé un préjudice de 5,5 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Environ 339 comptes ont été supprimés ou récupérés et 89 brouteurs escrocs sur Internet ont été interpellés après 2860 plaintes dont 73 ont été déférées devant la justice pour escroquerie sur le net, selon la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale ivoirienne. 92% des fraudeurs sont des hommes âgés en moyenne de 24 ans ayant connu une scolarité difficile ou déscolarisé autour de la classe du 3e. Pour terminer, Rossure SA et Rossure Life SA ont annoncé avoir officiellement obtenu de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances leurs agréments en tant que société d'assurance opérant en RDC. L'agence Ecofin publique Rossure Life SA exercera les activités d'assurance vie. De son côté, Rossure SA exercera les activités d'assurance non-vie regroupant les accidents, les incendies et les risques divers, ce qui lui permettra d'apporter une nouvelle vision et d'avoir un impact dynamique sur le secteur des assurances au Congo-Kinshasa.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les candidats au prix Marc-Vivien Foué.
Oui, RFI, Radio France Internationale et France 24 ont dévoilé hier les finalistes pour le prix Marc-Vivien Foué 2019. Il s'agit de la récompense du meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Parmi les nominés cette année, on retrouve quatre finalistes de l'année dernière. Le Tunisien Wabi Kazri, les Ivoiriens Nicolas Pépé et Max Alain Gradel et le Burkinabé Bertrand Traoré. Les sept autres finalistes sont le Marocain Younis Abdelhamid, l'Algérien Youssef Attal, le Camerounais Stéphane Baouken, le Gabonais Denis Bouanga, le Guinéen François Kamanou, le Sud-Africain Lebo Motiba et le Sénégalais Ismaël Assar. Le successeur du Camerounais Karl Toko Ekambi, sacré l'année dernière, sera connu le 13 mai.
La CAF a sanctionné le Burundi.
Oui, l'instance africaine reproche à la Fédération burundaise la diffusion sur les antennes de la télévision nationale du match Burundi-Gabon, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Burundi devra verser une amende de 10 000 $ à la CAF pour s'être autorisé à diffuser cette rencontre alors qu'il n'a pas payé les droits. C'est lors de cette dernière rencontre décisive soldée par un score d'un but partout que les Hirondelles se sont qualifiées pour la première CAN de leur histoire.
Démission du président de la Fédération allemande.
Oui, le président de la Fédération allemande de football, Reinhard Grindel, a annoncé sa démission après les révélations sur la montre de luxe que lui a offerte le vice-président ukrainien de l'UEFA, Lyuri Sulkich. Je suis profondément bouleversé de devoir quitter les fonctions de président de la fédération à cause d'un tel comportement, a indiqué M. Grindel, 57 ans, faisant référence au fait d'avoir accepté en cadeau une montre d'une valeur de 6 000 euros.
Les travaux de refonte du stade Bernabeu vont être lancés cet été.
Oui, ces travaux de remodelage visent à doter l'enceinte d'un toit rétractable et d'une enveloppe tout en courbe d'ici 2022. Cette refonte, pour un budget d'environ 500 millions d'euros, prévoit la pose d'un toit, d'une nouvelle enveloppe métallique faite de bandes d'acier et d'un tableau d'affichage lumineux visible à 360 degrés depuis les gradins. Le musée du club sera agrandi et de nouveaux espaces de restauration et de boutiques seront créés. Cependant, un projet d'hôtel, un temps évoqué, n'est plus mentionné. Le nombre de sièges du stade ne devrait pas changer autour de 81 000 places. Le chantier doit s'achever dans 3 ans et demi plus tard, sans perturber le calendrier sportif de l'équipe madrilène. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Oklahoma City et LA Lakers, 119 à 103. San Antonio et Atlanta, 117 à 111. Houston et Sacramento, 130 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Poursuite de notre série sur la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, est allé à la rencontre des jeunes qui sont nés bien après le génocide et il a tenté de savoir quelles relations ces jeunes Rwandais ont avec le passé tragique de leur pays. Le témoignage de Nishimwe Sabrina, une jeune Rwandaise âgée de 21 ans.
Je m'appelle Nishimwe Sabrina, je suis née en 1998, donc 4 ans après le génocide. J'ai 21 ans maintenant.
Comment est-ce que vous avez appris qu'il y a eu un génocide ici?
Bon, on a appris ça par différents médias, par nos parents, par les histoires que nos grands-parents ont racontées. Oui, c'est comme ça qu'on a appris ça, les histoires qui s'est fait au Rwanda en 1994.
Est-ce que pour vous c'est une relation de tristesse et un passé lointain? Quel rapport avez-vous avec le génocide?
Pas, il n'y a pas de grand-chose, il n'y a pas un grand rapport. On n'était pas là, on est né après ça. Mais on a un rapport parce qu'on a des parents, on a des grands-parents qui ont vu ça. Il y a peut-être des relations qui sont des victimes qui sont mortes dans le génocide. Donc il n'y a pas grand-chose personnellement, mais ça nous affecte indirectement. Parce qu'on a nos grands-parents et nos parents qui ont vu ça.
Comment est-ce que vous vivez actuellement au Rwanda? Comment voyez-vous l'avenir?
L'avenir est très rassuré. On voit que notre pays avance peu à peu. Il y a des jeunes qui contribuent à notre développement. Le Rwanda, il développe très bien maintenant. Alors, personnellement, on le vit très bien. On a appris du passé. C'était vraiment mal. Et on essaye de reconstruire notre pays.
Est-ce que vous avez des relations ethniques avec d'autres Rwandais? Parce qu'avant le génocide, il y avait beaucoup d'importance à ce que les gens disent Hutu ou bien Tutsi, ce qui a fait beaucoup de mal à ce pays. Aujourd'hui, en tant que jeune, quelle est la relation que vous avez avec les autres Rwandais?
Notre relation est très bien. On le vit très bien. Oui, il y a des gens qui sont toujours entre... Comme les grands-parents, on a des grands-tantes qui disent non, tu ne dois pas te marier avec un Hutu parce qu'ils nous offrent ça et ça. Mais ça se diminue les années et les années. Les gens comprennent qu'on est tous des Rwandais. Il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Donc oui, on le vit bien maintenant, ça s'améliore.
Est-ce que demain, si vous êtes Tutsi, vous pouvez vous marier avec un Hutu ou inversement?
Oui, on le peut, oui. C'était vraiment pas très bien avant parce que les parents s'opposaient. Oh, c'est le Hutu, tu ne peux pas te marier avec lui. Mais maintenant... Il sait, on est tous des Rwandais. On essaye de leur comprendre que ce n'est pas basé sur les Hutus, les Tutsis. On est tous des Rwandais maintenant.
Vous êtes l'avenir du Rwanda. Vous êtes la jeunesse du Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce pays va vraiment s'en sortir et que le génocide soit un lointain souvenir, loin derrière vous?
Ça fait 25 ans maintenant. Donc il va se reconstruire, ça va s'oublier. C'est oublié maintenant, même s'il y a peu de gens qui n'ont pas oublié ça. Mais c'est vraiment oublié et on avance très bien.
Un des témoignages recueillis à Kigali par Idriss Fall, notre envoyé spécial au Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Mali, et nous vous le disions hier, les membres du comité d'experts pour la réforme constitutionnelle ont remis au président Ibrahim Boubacar Keïta l'avant-projet de loi portant révision de la constitution du 25 février 1992. Le texte comporte des propositions comme la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes conformément au traité de l'UEMOA. Notre correspondant Kassim Traoré nous donne davantage de détails sur ce document.
L'État était venu pour nous de remettre notre œuvre en question et de le reconsidérer. C'est ce qu'a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture de la présentation du rapport. C'est après que le président du comité d'experts pour la réforme constitutionnelle a dévoilé les grandes lignes de son rapport. Makamoussa Sissoko.
La prise en compte de certains principes et valeurs de notre passé et présent glorieux. La définition des rôles du président de la République et du Premier ministre au sein de l'exécutif. La création d'une seconde chambre dénommée Sénat, appelée à assurer la représentativité des collectivités territoriales, les Maliens établis à l'étranger, les autorités traditionnelles et coutumières, les personnalités ayant honorer le service de l'État, les femmes et les jeunes sont appelés à y siéger.
Le document comprend les clauses de l'accord pour la paix et la réconciliation qui relèvent de la matière constitutionnelle, des propositions pertinentes des précédentes tentatives de révision constitutionnelle et d'autres réaménagements devant être apportés à la Constitution au regard de l'évolution du contexte institutionnel et juridique du pays.
La possibilité pour les citoyens de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception, la réaffirmation du caractère déconcentré et décentralisée de l'organisation administrative du territoire en accordant une place prépondérante à la régionalisation, le changement de dénomination de l'organe délibérant de la région en assemblée régionale élue au suffrage universel direct et dotée d'un pouvoir réglementaire, la possibilité donnée aux collectivités territoriales d'instituer sur leur territoire des impôts et taxes prévus par la loi.
L'avant-projet indique également l'augmentation du délai relatif à l'élection du président de la République et à la durée de la période intérimaire au niveau de cette institution, des réaménagements des attributions, des règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de justice, et la création de la Cour des comptes conformément au traité de l'UEMOA. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Il a été dit, il a été fait, au jour et à l'heure. Ceci est un grand moment pour notre pays, pour notre République, pour notre démocratie. Avec le traitement qu'il plaira à notre organisation nationale de lui accorder et au corps social malien tout entier, je suis certain qu'il aura un accueil favorable et que cela permettra de dessiner un nouveau parcours pour notre pays.
L'opposition malienne n'est pas d'accord avec les rapports du comité d'experts. Noum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition.
Pour nous, le principe a été violé par le président de la République. Le travail technique, ils doivent le faire. Normalement, c'est la société malienne, l'ensemble de la composante de la société qui devrait travailler sur la révision constitutionnelle. Ce qui doit être révisé et ce qui doit être modifié. Et si nous tombons d'accord sur le principe, comme ils ont voulu rédigé à la place du peuple malien, l'opposition de façon générale, on s'est dissolu de cette constitution qu'ils veulent nous proposer parce que nous pensons qu'ils ont des valeurs constitution prêtes et ils veulent nous appliquer, nous ne serons pas d'accord.
L'avant-projet en question sera soumis au député malien Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le rapport mondial sur les crises alimentaires 2019 est paru hier. Plus de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient au bord de la famine en 2018, particulièrement en Afrique. À peu près de 72 millions de personnes, avec près de 72 millions de personnes concernées, les pays africains sont touchés de manière disproportionnée par la faim aiguë. Pour mieux comprendre pourquoi le continent africain était particulièrement frappé par l'insécurité alimentaire, Claire Morin-Gibourg a joint Hervé Versel, un des porte-parole du Programme alimentaire mondial, le PAM.
Le continent est particulièrement frappé. Vous savez, 113 millions de personnes sont aujourd'hui, d'après ce rapport, dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ils se trouvent dans 53 pays. De nombreux pays se trouvent sur le continent. C'est le cas de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et du Nord Nigeria, par exemple, qui sont dans les pays les plus touchés par cette crise alimentaire aiguë. C'est également le cas dans les pays qui ensuite se trouvent dans une situation au seuil de la faim aiguë. 42 pays supplémentaires, 143 millions de personnes. De nombreux pays africains sont donc touchés par cette zone.
Est-ce que des progrès ont été constatés concernant l'éradication de la faim en Afrique?
Je dirais que globalement, pas uniquement en Afrique, mais globalement, certains progrès ont été constatés. Alors qu'en Afrique, le problème reste réel. Les deux causes les plus importantes, en fait, de cette insécurité alimentaire chronique sont, d'une part, les conflits, et d'autre part, par le climat et les catastrophes liées au climat. Et malheureusement, pour ces deux causes-là, l'Afrique est certainement touchée. De nombreux conflits ou des zones d'insécurité sur le continent. Et également, comme nous avons pu le voir juste là récemment au Mozambique, par exemple, des problèmes liés au climat ou aux différentes catastrophes. Donc l'Afrique reste malheureusement vraiment le continent le plus touché.
Que peut-on, que doit-on mettre en place pour tenter d'infléchir la faim et l'insécurité alimentaire sur le continent?
D'une part, pour infléchir cette faim et l'insécurité alimentaire, vu le lien avec les conflits, il faut mettre fin à ce conflit. Donc la faim et le conflit, première solution, autonomiser les femmes et le rôle et la vie des femmes, nourrir et éduquer les enfants, améliorer l'infrastructure locale, c'est également très important, mais également la prévention des conflits. Il ne faut pas toujours guérir, il faut parfois prévenir. Donc la prévention des conflits peut également aider énormément.
Hervé Versel, porte-parole du Programme alimentaire mondial, il était joint à Genève.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les forces démocratiques syriennes ont indiqué hier traquer des djihadistes dans l'est de la Syrie, tandis que la coalition internationale poursuit ses frappes contre leurs repères après la chute du dernier réduit du califat. Les FDS ont annoncé le 23 mars à Baghouz la fin de ce califat, autoproclamé en 2014 sur les territoires alors conquis par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Pour savoir si c'était vraiment la fin de ce groupe ultra-radical, Nathalie Barge a joint ici à Washington le spécialiste du Moyen-Orient, Émile Baroudi.
Le califat militairement est tombé, c'est vrai, mais l'État islamique, c'est aussi un état d'esprit dans la tête de beaucoup de personnes dans le monde arabe et islamique qui rêvent toujours d'un retour aux sources, un retour à cette époque, le grand califat. Il va falloir beaucoup de temps pour faire sortir cette idée de la tête de ces gens-là et les remettre dans un état d'esprit qui leur permet de continuer à fonctionner dans leur société, à être réintégrés. Je dirais même il faudrait une nouvelle génération, je parle de 20, 30 ans, pour que ça s'en aille vraiment tout à fait.
Alors il y a encore des frappes de la coalition et les FDS sont toujours à l'œuvre. Ce type d'opération militaire, selon vous, pourrait durer encore combien de temps?
Cette région de Baghouz, le Fawani, leur bastion est vraiment limitée. Ils continuent à nettoyer, il y aura probablement quelques éléments qui vont pouvoir s'évader ou aller le long du fleuve ou se cacher dans les roseaux. C'est pas tellement important. Ils vont être rattrapés et même s'ils ne sont pas attrapés militairement, ils ne sont plus valables, ils n'ont aucune possibilité militaire de faire quoi que ce soit.
Certains djihadistes sont disséminés dans le désert, du centre de la Syrie jusqu'à la frontière irakienne. Est-ce qu'il y a un risque par là que le conflit puisse encore plus s'écarter à l'extérieur du pays et que certaines cellules dormantes puissent être réactivées?
Les cellules dormantes peuvent être réactivées et ça c'est le grand danger. Comme je disais, militairement, ils ne valent plus rien, même si quelques éléments sont perdus dans le désert ou cachés dans des falaises ou quoi que ce soit. Les cellules dormantes entrent dans le cadre des menaces qui pèsent toujours sur les sociétés où elles sont.
Les Kurdes ont été très actifs dans ce conflit. Est-ce que cela ne risque-t-il pas d'exacerber par la suite les tensions justement entre les Kurdes et les membres de cette ligne dure de l'islam?
Je crois que certains sentiments, cette haine, va se cristalliser envers les Turcs. Ils seront vus comme un groupe homogène, comme c'est dessiné dans la pensée des djihadistes, évidemment. Dans ce genre de pensée extrémiste, il y a toujours le nous et les autres. Les autres, ça va être les Kurdes, parce qu'ils ont été des instruments de la défaite du califat.
Au niveau mondial, ce groupe commet encore des attentats. Est-ce que cela risque finalement d'atteindre un point encore beaucoup plus prononcé qu'à l'heure actuelle?
Je suppose qu'ils vont prendre un petit moment pour réfléchir, pour se réorganiser, pour essayer de préparer quelque chose. Il faut être très vigilant. Il ne faut pas laisser les différentes cellules se réorganiser et se remettre en contact. Il faut un grand réseau de surveillance électronique. Il faut vérifier tous les sites internet qui incitent à cette violence, qui prêchent cette pensée. C'est à travers ces sites-là qu'on peut arriver à les définir et à les localiser.
Notre confrère Émile Baroudi, spécialiste du Moyen-Orient.
Par
participer à notre magazine interactif À votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assenoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.